RCF.
Oser entrer en solitude, c'est toujours entamer un chemin singulier, c'est consentir à prendre du temps pour se rencontrer soi-même, c'est goûter à la liberté aussi. C'est en tout cas votre conviction, Jacqueline Kellen. Nous nous retrouvons pour évoquer ce thème de la solitude constructive, la bonne solitude. En quoi, justement, cette solitude fait-elle de nous des êtres libres ? On va parler de liberté aujourd'hui.
Des êtres libres parce que la solitude ouvre les portes, ouvre l'horizon, et la solitude pour moi se vit à ciel ouvert. C'est vraiment ce qui ouvre le ciel et elle permet de découvrir ce qui ne passe pas. C'est vraiment très très tangible, j'allais dire. Si on mène quelque peu cette expérience longtemps, c'est tout sauf triste, austère. C'est une ascèse au sens philosophique et spirituel, c'est-à-dire c'est une discipline, c'est-à-dire ça demande un effort, une persévérance, une étude et une passion également, parce qu'il y a une passion, je crois, de la solitude. Et sans doute les grands solitaires sont aussi les grands passionnés. Mais la solitude mène, justement, me fait me détacher de plus en plus de ce qui passe, donc de ce moi physique, historique, psychologique, et pour me faire découvrir ce qui ne passe pas. Vraiment, la solitude, pour moi, c'est la découverte de l'indestructible, autrement dit, la découverte de l'esprit. Et ce qui est intéressant, et je pense ce qu'ont vécu ces ermites, ces anachorètes, les pères du désert du IVe siècle, et plein d'autres encore aujourd'hui, inconnus, anonymes, c'est de trouver, et je pense que nous, laïcs, nous pouvons le vivre aussi, c'est de trouver dans la solitude, de ressentir ce point où, à un moment, je ne suis plus séparé. Ça, c'est vraiment une expérience intérieure. Lorsqu'on dit solitaire, on croit qu'on est détaché, on n'est plus lié à quiconque. Mais justement, plus on creuse la solitude, plus on approfondit, plus on entre en contact avec ce qui ne passe pas. Et donc, au plus haut point, je ne dis pas le plus profond, mais le plus haut point de la solitude, je touche justement ce point où je suis au centre, où je ne suis plus séparé. Je n'ai plus la conscience d'être séparé. C'est un point d'unité. Et ça, c'est le point merveilleux. C'est le point lumineux, la solitude est ensoleillée.
Alors, relié mais pas aliéné, je repensais à ce que l'on disait avant-hier, l'être libre n'a pas ce souci du regard des autres, dépendre du regard de l'autre pour exister. Donc il y a une liberté là.
Et bien sûr, bien sûr. Mais comment le vivre quand on est justement inséré dans le tissu social? Le grand défi actuel est passionnant, justement parce qu'il n'est pas facile. Le grand défi, c'est justement d'être, ce qu'on peut dire, être moine dans le monde de nos jours. Témoigner de l'éternel en vivant, en travaillant, en fondant un couple, pourquoi pas, ou en ayant des enfants, mais donc avoir une vie sociale, quotidienne, ordinaire, et en même temps témoigner de ce qui ne passe pas. Parce que la plupart du temps, dès que un individu a une aspiration spirituelle immense, eh bien il a envie de se séparer de la communauté humaine. J'allais dire, c'est tellement naturel, on a envie de partir au désert. Si on part au désert, c'est parce qu'on est habité par une présence immense. Quand on a fait une grande rencontre, une immense rencontre, en effet, on peut partir sur les routes, on peut devenir chevalier errant comme Don Quichotte. Donc, le mouvement, en effet, d'un grand amour, d'une grande rencontre, c'est de partir, c'est de s'éloigner de la communauté humaine terrestre mortelle. La solitude, c'est ce qui me fait renoncer à la finitude. La solitude n'a pas pour contraire le couple, la famille, vivre ensemble. La solitude est ce qui s'oppose à la servitude, à l'esclavage des jours, à l'esclavage de la condition mortelle. La solitude, c'est ce qui me permet d'accéder à l'être. C'est ce qui me fait passer de la condition mortelle à la condition d'être. Et l'être humain, c'est un être infiniment libre.
Mais les hommes qui sont allés au bout de leur solitude, alors les moines, les ermites, mais aussi les artistes, et puis beaucoup d'inconnus, n'ont pas besoin d'être rassurés, d'être admirés. Or, on sait très bien aujourd'hui que pour exister dans la société médiatique notamment, il faut dépendre du regard, par exemple.
Alors la question est vraiment celle-ci. Est-ce que je me situe par rapport au général, c'est-à-dire donc au regard de mes contemporains? Donc est-ce que je cherche le succès, l'approbation, etc., ou je veux passer à la télé? Ou est-ce que je me situe par rapport à l'absolu? Donc c'est-à-dire, alors certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent autrement. Est-ce que je me situe par rapport à l'absolu? Donc je compose de la musique, si je peins, si j'écris, c'est en tant que témoignage de cette beauté supérieure et ineffable. C'est ça la question. Celui qui posait cette question, c'est Kierkegaard, ce fameux pasteur danois, ce grand solitaire devant l'Éternel. Et il en parlait dans Crainte et tremblement, le chevalier de la foi, c'est celui qui se réfère à l'absolu. Ce n'est pas parce que les contemporains disent que, approuvent, etc., qu'il va se conduire ainsi. Ce qu'il cherche, et le véritable artiste, n'est pas celui qui écrit pour faire plaisir à ses contemporains ou pour aller dans le sens de ce qu'on attend et pour avoir des lecteurs. Ça, pour moi, c'est servile. Ce n'est pas être artiste, c'est être servile, être courtisan. Le véritable artiste ou créateur de beauté, c'est celui qui se sent des dettes envers alors le créateur ou la transcendance ou la vie, et celui qui veut témoigner de cette beauté infinie. Donc là, peu importe qu'il soit connu ou reconnu, applaudi ou non, tout ça, la gloire est éphémère, la gloire humaine est tout à fait éphémère. Mais il a rendu, pour moi, un artiste est quelqu'un qui a des dettes infinies. Non seulement vers les artistes précédents, tous ceux qui ont légué justement cette beauté et cette grandeur, mais des dettes infinies envers celui qui lui a donné justement ses dons. Nous avons tous des dettes infinies. Nous croyons toujours avoir des droits, mais nous avons des dettes infinies envers la divinité.
Jacqueline Kellen, vous prenez l'exemple de Jésus qui aurait de quoi pavaner après ses nombreux miracles. D'ailleurs, la foule essaye de le faire roi à plusieurs reprises. Et lui, à chaque fois, s'en va, seul, se retire en solitude. On médite ces pages d'évangile et c'est vrai qu'on peut en retirer beaucoup sur l'esprit de solitude.
Oui, c'est magnifique, tout est magnifique, mais ces moments parce que ça indique bien le sens même de l'élévation que procure la solitude. L'élévation spirituelle ne va pas dans le confortement de soi, devant l'affirmation de soi. Celui qui se sent dans sa tour d'ivoire et qui dirait « je suis seul parce que tous les autres sont méprisables et minables et je suis supérieur », ça, ce n'est pas le sens de la solitude. Ça, c'est simplement une carapace plus importante. Et c'est une glorification de soi. Donc, ce n'est pas le vrai chemin d'élévation, le vrai chemin de perfectionnement. Le sens de la solitude, qui est le sens de l'ouverture, va justement dans le sens du plus grand effacement. S'effacer, disparaître dans la lumière, au mieux disparaître en Dieu, s'abolir en Dieu, ce qui est le vœu de tous les chartreux et de tous les ermites anonymes, c'est justement le plus grand sens de l'ouverture. Plus je suis ouvert, plus je m'efface. Et ça donne une grande leçon, en effet, par rapport à l'exhibitionnisme ou à la revendication de son image. Chacun veut être vu, veut avoir son nom, veut parler de soi. Mais ça, c'est ce qui est le plus... Encore une fois, c'est un niveau tout à fait élémentaire. Mais il est évident que dans une société qui est très narcissique actuellement, toute société qui dans laquelle chaque citoyen veut être entendu, veut témoigner, etc., eh bien, cette société narcissique ne peut qu'encourager la non-solitude. Elle ne peut qu'avoir peur de la solitude.
Mais ça veut dire que rester en solitude aujourd'hui, c'est un combat parce qu'il faut sortir du jeu de séduction, du jeu de pouvoir. C'est un chemin d'humilité, ça.
Oui. Ah oui. C'est un chemin d'humilité, mais comme moi, je suis très fascinée par l'anonymat. Je pense que de nos jours, il est bon d'être clandestin. Ça n'a rien à voir avec les sans-papiers, bien sûr. Ça, c'est une autre, vraiment une autre histoire qui n'est pas de, de mon ressort. Mais être clandestin de l'âme, j'allais dire, ou être clandestin, être anonyme, si on veut vraiment garder sa liberté, conserver son esprit critique aussi, il faut défendre farouchement sa solitude. Ah oui, c'est l'inverse. On nous dit il faut briser la solitude et faire des rencontres et aller dans des salons de célibataires ou faire des voyages organisés. Bon, moi je dis au contraire, il faut reconnaître, épouser sa solitude, l'habiter comme une maison magnifique et surtout la défendre farouchement contre tous ceux qui veulent justement investir ce lieu. Et ce n'est pas s'enfermer, se fermer, mais c'est une grande leçon, comme vous l'avez dit, c'est une grande posture d'humilité. Parce que ça veut dire, c'est rester secret et discret. Oui, comme Jésus, échapper au pouvoir, la grande tentation, il n'y en a pas 50, hein, les tentations sur le chemin, c'est en effet l'argent et le pouvoir. Donc, se dire, ça y est, je suis arrivé, je suis le roi, je suis le maître, alors que je sois le roi des Juifs, comme on voulait le faire endosser à Jésus, ou que je sois le maître du monde. Mais c'est ça la grande tentation. Or, plus je serai solitaire, plus j'irai vers l'effacement, le secret, la discrétion, et plus je passerai, parce que de toute façon, peu importe que je sois connu ou non de mes contemporains, je pense que les plus grands saints ne sont pas dans les calendriers, en effet, et plus, justement, j'irai vers cet ouvert où je me perdrai, où je sombrerai. Ça, c'est vraiment les paroles des mystiques. Au bout de la solitude, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, c'est-à-dire il y a le rien qui est tout, parce que je ne suis plus là, mon petit moi n'est plus là pour en témoigner. Le petit moi est totalement fondu, absorbé dans l'immensité du divin.